En dormant, par Thérèse Benson. La Dominiquette habite une pauvre maison dans un village de montagne. Dominiquette est un singulier nom, mais c'est l'usage de l'endroit de mettre au féminin pour la femme le nom de famille. Or, le mari de la Dominiquette s'appelle Dominique. Jamais je n'ai connu de couple plus honnête et plus laborieux. Malheureusement, la misère est souvent à leur porte, quoi qu'ils fassent. Car Dominique, qui est ouvrier terrassier, ne trouve pas toujours du travail dans le pays de loup qui est le sien, et qu'il aime malgré ses rigueurs, parce qu'il y est né, que ses parents y sont morts, que tous les souvenirs doux et tristes de sa vie s'y rattachent. De temps en temps, il se laisse embaucher au loin. Ce n'est qu'une absence momentanée, l'affaire de quelques semaines, de quelques mois tout au plus. Ensuite, il reverra son gîte. Cet espoir le soutient, lui permet de tout endurer. Mais la pauvre Dominiquette, qui reste derrière lui, a gardé le foyer sans feu et la huche vide, toute seule en compagnie de privations de plus d'une sorte, est alors bien à plaindre. Elle ne peut pourtant pas quitter son petit Mickey, qui n'a que 3 ans à peine, et il faut dire en somme que Mickey la console de tout. Mickey est encore un diminutif de Dominique. Jamais vous n'avez vu, j'en suis sûre, de bambin plus drôle et plus gentil. Bien qu'il soit tout rond, une pelote de graisse, il marche à merveille, seulement pas bien vite, sautillant toujours à petits pas comme un agneau blanc derrière sa mère. En partant cette année pour aller travailler à l'installation d'un nouveau chemin de fer, son père a promis de lui rapporter un bel habit neuf. Mickey se souvient de cette promesse et se réjouit d'avance, tout en s'accommodant très bien de la vieille culotte qui, avec une chemise de grosse toile bise, compose toute sa toilette. Cette culotte, toujours trouée au genou malgré les reprises patientes de la mère, laisse nues ses petites jambes potelées. Mickey ne porte jamais de souliers, jamais de chapeau, sa toison blonde suffit à l'abriter. Aussi le hâle de son teint fait-il un contraste amusant avec ses cheveux d'or pâle. Tel qu'il est, Mickey passe avec raison pour le plus bel enfant du village et aussi pour le plus sage. Sa mère allant en journée de ci de là, il a pris l'habitude de ne jamais la déranger de sa besogne, afin qu'on le souffre auprès d'elle. Assis sur le pas de la porte, tandis qu'elle fait la lessive ou raccommode les hardes, il joue sans bruit avec des brins de bois, des petites pierres. C'est à peine si, lorsqu'il a fini de bâtir une maison, il ose crier « Vois donc, maman, vois donc !» Dominiquette ne prend pas le temps de regarder, mais elle dit tendrement « Oui, c'est très beau, c'est superbe !» Et Mickey se rengorge, enchanté de l'approbation maternelle. Si petite que soit la chaumière qu'habitent les Dominiques de père en fils depuis plusieurs générations, elle n'est pas leur propriété. Ils n'ont jamais gagné assez d'argent à la fois pour pouvoir l'acheter. Et le paysan à qui elle appartient exige que le loyer soit payé avec exactitude. Du reste, cet homme, bien que très dur, estime ses locataires. Il apprécie leur propreté dans l'intérieur du ménage et le soin qu'ils prennent d'un petit jardin où poussent les légumes que Dominiquette va vendre pendant la saison à la ville voisine, une ville d'eau où affluent les étrangers 2 ou 3 mois de suite. Elle vend aussi les œufs de ses 2 poules. C'est Mickey qui va chercher les œufs au poulailler et qui les apporte avec des précautions infinies. Jamais il n'en a cassé un. Déjà, son plaisir est de se rendre utile et il prend part, plus qu'on ne pourrait le croire d'un enfant de son âge, à toutes les menues tribulations de sa mère. Ainsi, la poule grise avait cessé de pondre depuis longtemps et un jour, elle finit par disparaître. Dominiquette s'en désolait et Mickey pleurait avec elle. C'est lui, le petit drôle, qui a retrouvé la poule. Sa mère, quand elle va cueillir des fraises en forêt, l'assoit toujours sur la lisière du bois, à l'ombre d'un grand arbre où il l'attend sans danger. Croiriez-vous que Dame Poule s'était fait elle-même un nid dans les herbes molles, derrière l'arbre, pour y déposer ses œufs que la rusée couvait tranquillement, tandis qu'on la cherchait partout? Ceux-là, du moins, semble-t-elle se dire, ne seront pas vendus. Je les ai gardés pour moi. « Maman, maman !» cria Mickey à sa mère du plus loin qu'il l'aperçut, revenant avec sa corbeille de fraises. La grise est là, couchée dans l'herbe. Elle ne bouge pas, même si on la touche et si on veut la chasser. Voilà Dominiquette heureuse. Elle explique à son fils qu'il aura bientôt de jolis petits poulets et que jusqu'au moment où ils briseront la coque qui les contient encore prisonniers, il faudra chaque matin apporter du grain à la poule afin qu'elle ne soit pas forcée de se déranger. C'est moi qui lui donnerai son déjeuner, maman. Et quand je serai un peu plus grand, n'est-ce pas, j'irai aussi vendre les œufs où vous allez, de l'autre côté de la forêt. C'est bien loin, n'est-ce pas? C'est bien beau. » Et la mère raconte à Mickey, émerveillé, qu'il y a une source d'eau chaude qui sort de terre toute bouillante. Les malades viennent y boire et s'en retournent guéris. Comme ils arrivent de différents pays et ne sauraient où loger sans cela, on a construit une magnifique maison pour les recevoir tous. C'est l'hôtel où s'en vont les légumes du jardin et les œufs du poulailler. « Si je suis bien sage, vous m'emmènerez voir l'hôtel ?» dit Mickey, dont les grands yeux noirs sont arrondis par l'admiration et la curiosité. « Plus tard, tu ne pourrais marcher jusque-là et tu es trop lourd pour que je te porte. » « C'est ennuyeux d'être petit, » dit Mickey en faisant la moue, « mais je vais me dépêcher de grandir, et alors je chargerai sur mon dos tous vos paniers. » Un matin, la pauvre mère s'est éveillée bien triste, le cœur serré. Elle n'a pas pu payer la terre méchue du loyer. Le précédent était en retard déjà, et son propriétaire, qui a en vue des locataires plus riches, menace de la chasser si elle ne s'acquitte pas tout de suite envers lui. Hélas, un orage a ravagé le jardin. Une fouine a mangé la seconde poule qui continue à pondre, et Dominiquette n'a pas même de quoi acheter du pain. Son mari a bien promis de revenir dans 15 jours. Il rapportera un peu d'argent, mais jusque-là, comment faire? Le propriétaire, sous prétexte qu'il est gêné lui-même, ne veut pas attendre. Dominiquette s'est levée de grand matin. Elle a prié Dieu avec ferveur de l'aider dans ce cas désespéré, après quoi elle a, comme de coutume, habillé Mickey, qui ouvre toujours l'œil en chantant, et lui a donné la dernière croûte de pain qu'il trempe dans un verre d'eau, sans s'apercevoir, le pauvre innocent, que sa mère n'a rien mangé. Dominiquette s'est décidée, quoique bien timide, à faire une démarche auprès de la maîtresse de l'hôtel des bains, qu'elle suppliera de lui avancer une petite somme jusqu'au retour de son mari. Peut-être en route va-t-elle trouver des fraises qu'elle vendra par la même occasion. Ayant pris avec effort son parti de demander, Dominiquette tire de la huche un reste de farine et un peu de lait, dont elle fait une excellente bouillie qu'elle verse ensuite dans une assiette. « Tiens, Mickey, c'est pour toi, mais tu ne la mangeras qu'au coup de midi. » Mickey indique d'un signe de tête qu'il a compris, et voyant pleurer la mère, il passe une petite main câline sur son visage en disant « Allons, ne pleure plus, sois gentil. » Ce sont les paroles dont sa maman se sert toujours pour le calmer quand il crie, et ne doute pas de leur effet tout-puissant. « Je te reconduirai jusqu'au grand arbre en allant porter son déjeuner à la mère poule, » ajoute Mickey, qui a mis en réserve les moindres miettes de son pain. Sa maman y ajoute tout ce qui reste dans la huche, et ils s'en vont côte à côte. Arrivés au pied de l'arbre, Dominiquette embrasse son fils. « Que le bon Dieu te garde, lui dit-elle, ne t'enfonce pas dans la forêt, sois sage. » Et elle s'en va sans inquiétude, car jamais Mickey n'a désobéi. Bien des fois, il est resté seul sur le bord de ce sentier où ne passent jamais ni chevaux ni vaches, mais seulement les gens du village qui ont affaire à l'établissement des eaux thermales. Le petit suit des yeux sa mère jusqu'à ce qu'elle ait disparu sous la haute voûte des chênes, puis il donne les miettes à son ami la poule, cueille de jolies herbes pareilles à des panaches, ramasse des feuilles, regarde travailler les fourmis et les oiseaux sauter de branche en branche. Enfin, son estomac creux lui rappelle la bouillie que sa mère a laissée au logis. « Bien sûr, se dit-il, midi a dû sonner, j'ai trop faim. » Et il trottine vers le village. C'est déjà pour ses petites jambes une longue course, mais l'envie de rejoindre la bouillie lui prête des ailes. Enfin il la tient. « N'est-ce pas, dit-il à une voisine, il est plus de midi ?»« Il est 11 heures à peine, répond la bonne femme. » « Impossible de manger la bouillie. Maman a dit d'attendre le coup de midi. » Une idée vient à Mickey. S'il emportait son dîner sous le grand arbre. Souvent, il a été goûté à cette place avec sa mère. Cela lui ferait gagner du temps, et en marchant, il s'ennuierait moins. La bouillie n'est plus chaude, mais l'assiette est toute pleine, et Mickey n'en voudrait rien répandre. Le voilà qui se met à marcher avec lenteur, les yeux fixés sur son précieux fardeau, et en se répétant à lui-même. Doucement, Mickey, doucement, comme il l'a entendu dire à sa mère. Cependant, jamais de ce train il n'atteindrait l'arbre si la voisine, qui est obligeante, ne consentait à quitter sa quenouille pour porter la bouillie jusque-là. Mickey la remercie, et tandis qu'elle s'éloigne en riant de l'idée singulière d'un pareil bambin, il s'installe commodément sur la mousse. Qu'on est bien assis par cette chaleur et que cette bouillie est délicieuse. Il répète plusieurs fois tout en mangeant et en se léchant ses lèvres. « C'est bon, ah que c'est bon !» Tout est tranquille autour de lui, si tranquille que les oiseaux s'approchent pour le regarder de près. Il fait chaud de plus en plus, le silence augmente à mesure. La poule sommeille sur son nid, la chanson incessante du grillon accompagne le bourdonnement non moins continu des mouches, les feuilles sont immobiles, aucun souffle d'air ne les fait palpiter. Son double voyage de l'arbre à la maison a fatigué Mickey, il bâille à chaque instant. L'assiette glisse de ses genoux sans qu'il s'en aperçoive. La cuillère échappe à sa petite main, son bras retombe inerte avec elle. C'en est fait, Mickey dort. Il dort si doucement, si profondément, bercé sans doute par un beau rêve, que les oiseaux s'approchent de plus en plus et qu'un effronté rouge-gorge, entre autres, pousse l'audace jusqu'à se percher au bord de l'assiette pour goûter franchement à la bouillie. Mickey n'en voit rien. Ses paupières sont fermées, ses petites joues rouges comme des pommes d'api. Sa bouche, pareil à un bouton de rose, est entr'ouverte sur deux quenottes blanches. À peine si on le voit respirer. J'ai dit si on le voit parce que son sommeil a des témoins à la fin. Deux personnes s'avancent, suivant le sentier. Un jeune homme et une jeune femme, non pas des paysans comme à l'ordinaire, mais des étrangers de distinction qui, de l'hôtel des Bains, ont entrepris une promenade. La jeune femme est ravissante en robe de mousseline bleue de ciel. Ayant trop chaud, elle tient à la main son chapeau de paille et repousse les boucles blondes qui tombent en désordre sur son front, sur son cou. « Ah ! » s'écrie-t-elle en atteignant la forêt. « Quel calme reposant, quelle fraîcheur ! Et Dieu merci, nous échappons aux mendiants qui nous ont harcelés tout le long de la route. Ce pays est si pauvre, il faut donner du matin au soir. » « Ne chante pas victoire trop tôt, » dit son compagnon en riant. « Voilà, si je ne me trompe, là-bas un petit gueux qui nous guette. »«
Non, vraiment, » réplique la jeune femme, regardant du côté qu'il indique. « Celui-ci ne demande rien. Il a tout ce qu'il lui faut, et même du superflu. » ajoute-t-elle en courant d'un pied léger vers le petit dormeur, ce qui met en fuite l'audacieux rouge-gorge, tout alourdi par un repas copieux. « Qu'il est joli, » reprend la jeune femme après un instant de contemplation souriante. « Oui, » dit son mari, « si nous lui donnions quelque chose. » « J'y pensais, mais je t'avertis que je serais prodigue. « Me permets-tu de faire une folie ? » dit-elle en tirant de sa poche une bourse brodée. « Je te permets tout. Nous sommes si heureux. « Que les autres doivent l'être un peu aussi avec nous, » achève la jeune femme toute sérieuse. Elle s'agenouille et dépose un long baiser sur le front du dormeur, en même temps qu'un objet brillant dans sa petite main. Mickey ouvre de grands yeux. Il entrevoit comme en rêve une figure céleste et sourit. Mais sa grande fatigue est la plus forte. La tête frisée retombe sur la mousse. Le petit poing se referme, Mickey se rendort. Les deux jeunes gens se sont enfoncés, au bras l'un de l'autre, dans les profondeurs de la forêt. Cependant, la pauvre Dominiquette avait passé une pénible journée. À grand-peine, elle avait rempli trois petits pots de fraises dans la forêt, qui avaient été maintes fois fouillés par tous les gamins du village. Enfin, avec le prix des fraises, elle pourrait toujours acheter une miche de pain. Malheureusement, elle voulut monter jusqu'à l'hôtel par le chemin le plus court, afin de laisser son fils moins longtemps seul, et comme ce chemin rapide était aussi très raboteux, elle trébucha contre une pierre et tomba tout de son long en écrasant les fraises dans cette chute. De celles qui restaient, on aurait pu remplir tout au plus un petit pot. En se lamentant, elle continua de gravir et arriva bien lasse pour trouver la maîtresse de l'hôtel fort affairée, car une multitude de voyageurs venait d'arriver et elle ne savait où les mettre. Le temps lui manquait pour écouter le récit de la mésaventure de Dominiquette. Néanmoins, touchée de pitié, elle lui donna quelques sous. Mais lorsque la pauvre femme essaya d'aborder la question d'un emprunt, « Oh, quant à cela, c'est impossible !» répondit l'aubergiste, qui ne se souciait pas d'aventurer son argent. « Je vous ai donné 10 sous, vous pouvez dîner à la cuisine, c'est bien assez, et s'il vous plaît, gardez-vous de tendre la main aux étrangers qui sont ici. Cela importune le monde. » Dominiquette répondit en rougissant qu'elle n'avait jamais mendié. Il fallut même la penser que Mickey aurait faim à son retour pour l'empêcher de rendre les 10 sous. Elle aida de son mieux à la cuisine afin de gagner la soupe qui lui fut donnée à midi. L'hôtesse, honteuse peut-être au fond de son avarice, et ajouta une galette pour Mickey. N'importe, la pauvre femme était terriblement préoccupée en regagnant sa demeure. Le souper était là dans sa poche, et elle réussirait sans doute à vivre ainsi au jour le jour, jusqu'au retour de son mari. Mais ce maudit loyer. Elle traversa la forêt en cherchant quelque moyen de se tirer de peine, et elle n'en trouva pas. La vue de Mickey, endormi de tout son cœur, à la place même où elle l'avait laissé, son assiette vide à côté de lui, la réconforta cependant un peu. « Cher petit, se dit-elle les larmes aux yeux, tu dors, toi, tu n'as pas de chagrin. Tu ne te doutes pas que demain peut-être tu seras sans asile. » Peu de personnes au monde savaient dormir comme Mickey. Il fallut que sa maman le secouât pour l'éveiller. Il lui tendit sa petite bouche, l'embrassa, en riant comme de coutume, et ouvrit la main. « Tiens, dit-il, voilà pour toi, prends vite. »« Grand Dieu ! » s'écria-t-elle, « qu'est-ce que je vois ? Une pièce d'or ? Une grosse pièce d'or ? Une pièce de 40 francs ? Où l'as-tu prise ? Où l'as-tu trouvée ? Il faut la rendre, chercher à qui elle appartient. » « Je ne l'ai pas prise, on me l'a donnée. »« Qui donc ?»« Un ange, » répondit Mickey avec conviction. « Oh, mon enfant, que dis-tu là ? Comment était cet ange ?»« Tout bleu et or, » s'écria Mickey, et ne put rien expliquer de plus. La mère se mit à genoux, attira l'enfant auprès d'elle et voulut réciter une belle prière. Mais elle ne put articuler un seul mot, tant les larmes et la joie l'étranglaient. « N'importe, Dieu l'a sûrement comprise. » Alors la mère et le fils rentrèrent gaiement chez eux, Mickey avec la galette, sa maman avec la pièce d'or. Le bon Dieu avait-il envoyé vraiment un ange du ciel, ou avait-il accordé ce secours par l'intermédiaire d'une main humaine? Dominiquette ne l'a jamais su, et elle ne se l'est jamais demandé. C'était En dormant, de Thérèse Benson.